Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'Un Café. C'est le deuxième épisode filmé. J'ai investi cette fois-ci dans un micro-cravate, donc normalement, par rapport au premier épisode, la qualité du son devrait être un petit peu mieux. Comme vous voyez, je suis dans un décor que vous n'avez encore jamais vu. Si jamais vous regardez, vous écoutez plutôt ce podcast ou vous regardez, je ne sais pas comment on dit, sur YouTube, tout simplement parce que on se trouve à la montagne. On est à Val d'Isère pour la saison d'hiver. C'est du coup l'appartement dans lequel on vit pour la saison. Du bois, ça rappelle la montagne, c'est parfait. Je savais pas trop comment le décorer un peu mieux puisqu'on n'a pas énormément de choses non plus. Donc ça ira très bien. Si en regardant la vidéo, vous remarquez quelque chose un petit peu bizarre, ça y est, j'ai enlevé mon pansement à l'œil. Je me suis fait opérer la semaine dernière et du coup j'ai encore un petit reste de bleu sur le coin de l'œil. C'est beaucoup moins par rapport à d'habitude, mais je peux pas, enfin du moins j'ai pas forcément envie de prendre le risque dans l'immédiat de le maquiller. Je préfère être sûre que tout soit bien fini, tout soit bien guéri pour ensuite maquiller tout ça. Donc c'est pas très très grave, mais je voulais vous prévenir si jamais vous remarquez un petit quelque chose. C'est un bleu, rien de grave suite à une opération. Ma recommandation cette semaine, c'est une télé-réalité américaine. Je crois que j'en ai jamais encore parlé ici, et même j'ai pas forcément beaucoup de gens dans mon entourage avec qui en discuter. Du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous fais cette recommandation et avec plaisir pour en discuter de façon un peu plus approfondie. Mais j'aime beaucoup ce qu'on appelle la pop culture en anglais. Alors, je trouve que la traduction est bof bof en français, mais c'est tout ce qui touche un petit peu au divertissement, un peu aux célébrités, etc. Alors, c'est pas une grande passion non plus, mais c'est plus, ça m'a toujours un petit peu intriguée et je pourrais en parler de façon un peu plus détaillée dans un épisode. Mais quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, c'est quand les premiers High School Musicals sont sortis. Et ça m'a, je sais pas, c'est comme si un nouveau monde s'était ouvert à moi. Ensuite, il y a eu l'apparition des Skyblogs où on voyait les premières photos de paparazzi, de certaines stars, certaines célébrités. Et ça, j'ai toujours l'impression que ça fait idiot quand j'en parle, mais je sais pas pourquoi, même pour le style vestimentaire, de toute façon, la culture, c'est vague de dire ça, mais anglo-saxonne en général, par exemple, le fait de se balader avec un café emporté, et même, je sais pas, ce mode de vie, en fait, m'a toujours intriguée, et par les photos qu'on voyait, par les vidéos aussi, c'était un moyen pour moi de m'imprégner un petit peu tout ça. À l'époque, il y avait pas YouTube, ou alors c'était absolument pas aussi développé. Ouais, je sais pas, ça a toujours été une forme de divertissement, ça l'est toujours aujourd'hui, alors avec un peu plus de... Enfin, je regarde pas les blogs comme je pouvais le faire avant, et quand je dis les blogs, c'était vraiment autour de 2009, 2010, 2011 peut-être, quelque chose comme ça, début des années 2010. Aujourd'hui, j'aime bien écouter des podcasts qui parlent de ça, quand je vais me balader, en fait, c'est vraiment un moyen pour moi, comme je disais, de me divertir, ou alors regarder... certaines vidéos, pas trop en fait, mais plutôt certaines télé-réalités qui peuvent justement retranscrire un petit peu ce mode de vie, ou alors avec des histoires un petit peu intrigantes. Comme celle-ci que je traduirais « Ma vie peu orthodoxe », je connais pas la traduction en français, en anglais c'est « My unorthodox life », et c'est l'histoire d'une femme en fait qui vivait dans une communauté juive orthodoxe très 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 conservatrice, très stricte. À Monty, elle s'appelle Julia Hart et en fait elle a quitté en 2013 cette communauté. Elle avait des enfants, etc. mais à l'âge de 42-43 ans, quelque chose comme ça, et en fait c'est une businesswoman vraiment, enfin elle a ça dans le sang. Elle a monté une marque de chaussures qui a ensuite été rachetée par une marque un peu plus importante. Ensuite elle a rencontré son mari qui était, je suis pas exactement sûre de son statut à l'époque, mais je crois qu'il était co-gérant ou copropriétaire du groupe Elite World, qui est une agence de mannequins. Et elle a fait exploser le truc. Et quand elle est partie de cette communauté, elle emmenait avec elle ses enfants. Et on le suit en fait dans l'émission. Ils sont dans un processus aussi de rentrer dans ce qu'ils appellent le monde moderne. Elle leur laisse évidemment la liberté de choisir. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle leur montre qu'il y a autre chose en fait. Que c'est pas que la religion, qu'en tant que femme aussi, parce qu'elle a des filles, elles sont libres de s'habiller comme elles veulent, d'avoir la sexualité qu'elles veulent, de faire ce qu'elles veulent aussi dans leur vie. Pareil pour les hommes. Et c'est super intéressant en fait de voir l'évolution des enfants, parce qu'entre la saison 1 et la saison 2 aussi, il y a une certaine évolution, notamment d'un point de vue religion. C'est une religion que je connais peu au final, qu'ils soient religieux ou pas en soi, moi ça me concerne pas, je trouve ça juste intéressant de voir l'évolution de leur pensée en fait, que ce soit dans un sens ou dans un autre, parce que son plus jeune fils reste vraiment entre les deux mondes, et tient à garder certaines pratiques. Et du coup, c'est intéressant de voir comment ils articulent tout ça dans un monde plus moderne, puisque elle est devenue richissime et elle a une réussite qui est très impressionnante. Donc voilà, c'est facile à regarder. Si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, n'hésitez pas à aller voir, c'est sur Netflix. Et encore une fois, si vous souhaitez qu'on en discute, avec plaisir.
You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est assez important pour moi et qui est, je pense, l'un des problèmes, l'une des sources, en fait, de mes angoisses, tout simplement, notamment liées à la santé. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Ça m'angoisse pas mal, tout ce qui touche à la santé. C'est évidemment, enfin, pour moi en tout cas, lié à la peur de la mort aussi. Et ça a été tout un travail d'autoconviction, d'apprentissage aussi, de me dire que je suis en sécurité, je suis en bonne santé, que je vais bien, qu'il n'y a aucune raison que je meure tôt. Ça paraît peut-être un petit peu surprenant si jamais vous m'entendez dire ça pour la première fois ou si vous ne connaissez pas forcément mon histoire. Mais suite aux violences que j'ai pu vivre, c'est vraiment une réalisation que j'ai eue. J'avais l'impression que mon inconscient avait été programmé pour mourir jeune parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, enfin en tout cas dans l'épisode dans lequel je parle des violences conjugales, je suis persuadée que je me suis sauvée la vie et que j'aurais fini par mourir d'une certaine façon assez jeune en fait. Et pendant un moment, il fallait, et toujours un petit peu maintenant, que j'aille à l'encontre de cette pensée-là, à l'encontre de cette croyance, fausse croyance de mon inconscient, en par exemple me visualisant plus âgée, avec des petits-enfants, en tant que personne de 70-80 ans. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'était une façon pour moi d'ancrer dans mon inconscient un petit peu le fait que non, il n'y a aucune raison que je meure jeune, évidemment, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais que mon corps, en fait, me fasse mourir jeune, parce que, comme je disais, je crois beaucoup que le corps et l'esprit sont liés, et ce qui se passe dans ma tête, c'est que si je crois quelque chose, par exemple, si j'ai peur d'avoir un problème, comme j'en ai un petit peu peur, mon corps, et c'est souvent lié un petit peu au stress, peut déclencher certains symptômes qui sont liés souvent aux angoisses. Du coup, j'ai l'impression que comme je ressens des symptômes et que je m'écoute énormément, je connais bien mon corps maintenant, j'ai l'impression quand même que j'ai un problème. Et du coup, je me dis, mon Dieu, j'ai vraiment un problème. Et je me dis, ça y est, j'ai trouvé, entre guillemets, la porte de sortie. Et en fait, c'est un petit cercle vicieux où je suis dans l'autoconviction que, oh mon Dieu, j'ai l'impression qu'il m'arrive quelque chose. J'essaye de me rassurer et je me dis, mais si je le pense, c'est que mon corps y croit. Si mon corps y croit, il va le créer. Enfin bref. je sais pas si c'est très clair, mais c'est épuisant au quotidien parce que j'ai toujours l'impression d'être dans un processus d'autoconviction, que tout va bien, etc. Et j'ai un petit peu vécu ça ces derniers temps. Même si aujourd'hui j'arrive à beaucoup mieux gérer mes angoisses, j'ai quand même certains moments où je suis un petit peu perdue entre ce que je crois, ce qui est vrai, enfin bref. Et une chose que j'ai réalisée, du coup, c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, je pense que je ne fais pas confiance à mon corps. Et c'est un petit peu bizarre de le dire. Si j'ai pas confiance en lui, comment est-ce que je peux être certaine qu'il va m'aider à guérir certains maux, MAUX. Par exemple, si j'ai un petit mal de tête, tout de suite, ça prend des proportions énormes. Et en fait, je ne crois pas en sa capacité de gérer ce mal de tête, de me guérir, en fait, tout simplement. Et là où ça pose problème, c'est que je travaille, en fait, en interne sur le mental, sur comment arriver à avoir mieux confiance en moi, arriver à mieux me connaître, mieux gérer mes émotions. Et en fait, je n'ai pas cette connexion avec mon corps. C'est comme si c'était deux entités différentes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et si c'est quelque chose auquel vous ne croyez pas forcément, je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Chacun prend et garde ce qui lui convient ou pas. Moi, c'est une explication qui est assez imagée pour moi, assez claire. Du coup, j'ai envie de continuer comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne depuis longtemps. Et ça me convient, mais du coup, ça me cause un petit peu du tort aussi. Mais quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ok, il faut déjà que j'apprenne à m'adresser à mon corps comme je peux m'adresser un petit peu à mon esprit, parce que mon corps aussi a été violenté, mon corps a souffert, et par exemple, ce sentiment de sécurité, peut-être qu'il ne le ressent pas. Et c'est pour ça qu'il va chercher à s'exprimer de différentes façons. Ça va être lié à mon esprit, mais si je ne sais pas l'appréhender et gérer, comment, ça revient à la même chose, comment est-ce que je peux avoir confiance en lui en fait. Et je suis peut-être pas la seule dans cette situation, sans aller aussi loin dans la réflexion, mais si vous avez certains stress ou certaines angoisses, ou pas d'ailleurs, si pour être bien dans son corps et dans sa tête, vous avez juste envie d'apprendre à avoir plus confiance en votre corps, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être bénéfique. Et donc j'ai cherché des conseils pour justement apprendre à faire confiance à son corps, à se sentir mieux dans son corps. Et je vous mettrai le lien du site, c'est un site américain, c'est une américaine qui a écrit ça. Je ne vais faire que lire ses conseils parce qu'encore une fois, moi j'apprends en même temps que vous. J'ai fait cette recherche, ça m'a semblé intéressant et donc je voulais vous les partager. J'ai aucun mérite sur ce qui est écrit. J'apprends en même temps. Et du coup, l'article s'intitule « 5 conseils pour apprendre à faire confiance à son corps ». Et elle dit quand on apprend à faire confiance à son corps, il ne devient pas du coup juste un endroit au sein duquel on est forcé un petit peu d'habiter, mais plutôt un refuge et vraiment un guide. Et l'idée, c'est plus d'aller à l'encontre de ce que son corps nous dit, mais d'apprendre à l'écouter, à le respecter aussi. Par exemple, quand on est fatigué, et je suis coupable de tout ça, j'ai du mal à me poser. J'essaye vraiment de l'écouter, lui faire confiance et lui dire que s'il m'envoie certains messages, c'est qu'il a besoin justement de repos pour mieux fonctionner. Et que c'est pas parce que je ressens certaines douleurs ou alors certains maux, encore une fois, MAUX, que mon corps est en perte de contrôle. Non, c'est un système qui est bien plus intelligent que nous. Enfin, c'est une intelligence, je dirais, qui est différente. La nature est extrêmement bien faite. Et par exemple, la fièvre, c'est une façon d'évacuer le mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je dis le mal, c'est voilà, le problème ou le virus ou la bactérie, j'en sais rien, qu'on peut rencontrer. Mais c'est une façon pour son corps de gérer ça. Et moi, je suis plutôt dans la réflexion inverse, de me dire, oh mon Dieu, perte de contrôle, ça y est, je suis enterrée demain. Quoi. C'est un peu ça. Du coup, on va voir les 5 conseils. Le premier, c'est donner une identité à son corps. Elle dit par exemple que certaines personnes qui ont pu aller à la guerre, en fait, parlaient de leur corps comme une entité, comme un objet en tant que tel, en le nommant « il », et que c'était important, dans le cas par exemple d'un traumatisme, de se détacher un petit peu de tout ça. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'une fois que ça va mieux, qu'on se sent mieux en sécurité, c'est important justement de guérir la relation qu'on peut avoir avec son corps. Et elle dit qu'effectivement, donner une identité à son corps, comme si on s'adressait en fait à un ami, comme si on s'adressait à quelqu'un de notre famille, ça peut être justement un moyen intéressant et puissant de se reconnecter avec lui. Et c'est ce qu'elle dit. Si par exemple le fait de donner une identité à son corps, ça paraît un petit peu abstrait pour vous, n'hésitez pas à le considérer justement comme un proche ou comme un ami, comme si vous alliez consoler quelqu'un. C'est un peu cette façon-là. Et s'il a été blessé ou s'il a souffert, demandez-lui en fait. Alors vous n'êtes pas obligé de parler tout fort, mais ça peut être en interne de de se poser la question, ok, comment est-ce que tu te sens? De quoi est-ce que tu as besoin? L'idée, c'est de faire preuve d'empathie envers cette entité qui, au final, est nous. Mais c'est un moyen un peu plus visuel, justement, un peu plus imagé pour le faire. Et c'est quelque chose que j'ai testé et je trouve ça super intéressant. L'autre jour, j'ai eu une petite crise d'angoisse. J'ai parlé à mon corps comme si... Exactement la même chose, comme si je parlais à un proche. Et ça peut paraître un petit peu bizarre. Je me suis pris un petit peu dans les bras, j'étais dans mon lit et je me suis parlé doucement en me disant « Tout va bien, tu es en sécurité, ne t'inquiète pas. » En tout cas, ce conseil-là, c'est quelque chose qui a vraiment résonné en moi et qui me parle beaucoup et je trouve ça super intéressant. Vous pouvez le faire avec votre corps ou avec votre esprit. Si vous avez confiance en votre corps, mais c'est plutôt votre esprit qui peut vous causer un peu du tort, n'hésitez pas à adopter la même manière de fonctionner avec votre esprit. Je pense que c'est super intéressant. C'est comme parler un petit peu à son enfant intérieur. Deuxième conseil, elle parle de faire un scan intégral un petit peu de son corps. L'idée, c'est de prendre un moment et vraiment de se concentrer sur ce qu'on ressent en fait. Et c'est là où on peut lui parler en disant comment est-ce que tu te sens. Et alors peut-être que ce sera pas évident au départ, mais avec le temps, vous allez apprendre à écouter votre corps s'exprimer. Et du coup, il va vous dire ce dont il a besoin. Alors peut-être que ça peut être juste « j'ai faim » dans un premier temps, mais vous allez peut-être associer certaines sensations à des émotions. Par exemple, la petite crise d'angoisse que j'ai eue l'autre fois, c'est j'étais au sport, je me suis relevée un petit peu trop vite et j'ai eu l'impression, vous savez, quand la tête tourne au début. Je me suis dit « oula, j'ai des vertiges, j'ai une tumeur au cerveau, enfin bref. » Voilà, ça m'a paniqué pendant 2 jours, avec plus ou moins d'intensité. Il y a des moments où ça allait mieux et d'autres où ça repartait. Mais j'en ai parlé à mon médecin, je lui ai expliqué exactement, parce que ça m'était déjà arrivé, le type de petit vertige. C'est un peu comme une espèce de perte d'équilibre, un peu comme le mal de terre. Et elle m'a dit que c'était lié justement, et j'en ai parlé dans un autre épisode, au système orthosympathique. C'est celui-là, oui, orthosympathique, qui met un petit peu le corps en état d'urgence. Et les angoisses peuvent provoquer ça, on a l'impression de ne plus être ancré, enfin bref. Et je me suis posée, j'ai vraiment essayé de comprendre le type de petit vertige que je pouvais ressentir, et c'est exactement ce que je lui avais écrit. Elle m'a dit, c'est de l'angoisse. Donc, rassure-toi, respire, cohérence cardiaque, on en a parlé, c'est super important. Et maintenant, je dis pas que ça me panique plus, puisque ça a été le cas pendant 2-3 jours, et aujourd'hui ça va bien. Touche du bois. Mais je sais que ce type de sensation est irrationnel dans un sens et lié aux angoisses. Et du coup, je sais ce qu'il faut, je sais ce dont j'ai besoin pour me rassurer, aller mieux, etc. L'étape d'après qui peut être intéressante si c'est quelque chose qui vous parle, c'est d'écrire dans un carnet tout ce que votre corps vous dit. En fait, ça peut permettre de garder justement une trace ou un historique de votre évolution aussi. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette trace écrite pour pouvoir retourner un petit peu après en arrière quand ça va mieux et vous dire ok, j'ai parcouru du chemin et j'ai vraiment appris à mieux me connaître, mieux me sentir, enfin bref, tout le travail personnel que vous pouvez faire. Et elle ajoute enfin qu'il faut que ce soit réaliste et que ça vous convienne à vous. Donc si vous sentez à un moment de faire ça un petit peu tous les jours, de vous poser cette question, comment vas-tu aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens, après peut-être que ce sera toutes les semaines, tous les mois, je ne sais quoi, mais l'idée, encore une fois, c'est vraiment que ça vous aille à vous. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Elle dit ensuite que la gentillesse, c'est quelque chose qui est authentique. Une des questions qu'elle reçoit pas mal de ses clients avec qui elle apprend justement, ou avec qui elle travaille tout ça, c'est comment est-ce que je sais et peux faire confiance à ce que me dit mon corps? Est-ce que c'est vraiment la voix authentique, le vrai moi qui parle, si vous voyez ce que je veux dire? Et elle dit que la réponse est très simple, c'est que si la voix qu'on entend est méchante ou que le message est négatif, alors c'est pas notre voix authentique. Parce que on apprend la méchanceté, on apprend l'autocritique mais non constructive. C'est la société aussi qui nous pousse un petit peu à aller là-dedans. Peut-être qu'en fonction de notre enfance aussi, si on est dans l'attente de résultats, on peut être dur avec soi-même et on se parle à soi-même de façon... En tout cas, moi je suis assez concernée là-dessus. Beaucoup moins, mais pas toujours avec bienveillance en fait. Et si c'est cette voix qui parle, alors c'est que c'est pas la bonne voix entre guillemets. Si par exemple vous demandez comment est-ce que vous allez et que votre corps vous dit ou vous fait comprendre je suis fatiguée et que là vous vous dites oui bah il faut arrêter d'être un petit peu paresseux, bouge-toi, c'est que de la flemme, non, c'est que c'est pas votre voix bienveillante qui parle, votre voix authentique Donc reposez-vous cette question et imaginez que vous vous adressez vraiment à un ami. C'est quelque chose que j'ai compris un jour, je me dis, mais la manière dont je me parle, mais jamais, jamais j'oserais communiquer de cette façon-là avec un proche, en fait. Et à partir du moment où on en prend conscience, on est en capacité justement de changer ce discours et du moins vous permettre de trier au moins les informations entre ce que votre vrai vous vous dit et ce que vous pouvez vous dire qui au final n'apporte aucune solution si ce n'est un manque de confiance, un manque d'amour propre, etc. Pour le quatrième point, il dit que c'est important d'aller chercher une vérité qui est neutre dans un premier temps. Parce qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain à se parler mal et se traiter mal et le lendemain on est 100% positif tout le temps. C'est important déjà de, comme étape intermédiaire, aller à une vérité qui est neutre et qui du coup va quand même bloquer certaines habitudes qui peuvent être néfastes justement pour votre santé mentale et physique aussi, et progressivement adopter de nouvelles habitudes positives et saines. Et par exemple, elle dit, si vous avez du mal à atteindre certains objectifs d'un point de vue mouvement, d'un point de vue dépenses physiques en général, quand vous sentez toute la négativité monter en vous et qui commence à vous parler et à vous accuser de plein de choses complètement irrationnelles, ce que vous pouvez faire pour bloquer ça, c'est vous faire une liste de toutes les petites choses en fait qui vous ont permis justement, même si c'est des mini-étapes, d'intégrer un peu plus de mouvement, un peu plus de sport, un peu plus de dépenses physiques dans votre quotidien. Vous pouvez vous dire, oui, je ne suis peut-être pas allée courir aujourd'hui, par contre je suis allée me balader et j'ai fait 2-3 fois le tour du quartier. Et ça m'a fait du bien, c'est vraiment le plus important. Les vérités neutres, c'est aussi un moyen de se concentrer sur notre force en interne, notre courage, notre résilience aussi, et travailler sur les petites choses que vous appréciez chez vous, sur votre corps. Commencez par là, et ensuite progressivement intégrer les choses avec lesquelles vous avez un peu plus de mal ou qui peut-être vous apportent plus de complexes, que ce soit encore une fois mental ou physique. Les choses en fait que vous avez du mal à accepter. Et pour finir, elle parle d'adopter un mantra. En fait, c'est plus une phrase qui vous parle, qui résonne en vous, que vous allez justement ajoutez à votre quotidien et vous répétez une phrase qui va vous rassurer. Peut-être que vous pouvez en avoir plusieurs d'ailleurs. N'hésitez pas à les noter dans votre téléphone et avant de vous coucher, ou alors les noter sur votre miroir, vous le répétez, vous le relire. Et en fait, plus votre cerveau va l'entendre, va l'écouter, et plus du coup il va y croire, et plus ça va vous faire du bien. Puis c'est surtout que ça va vous faire un point de référence. Dans les moments où ça va un petit peu mal, hop, rappelez-vous les émotions, les sensations que cette ou ces phrases vous ont procuré la première fois que vous les avez lues ou prononcées ou écrites. C'est un petit peu une zone de confort, de sécurité dans laquelle vous pouvez vous réfugier dès que vous sentez que vous perdez un petit peu le contrôle. Elle dit par exemple, j'ai conscience en la capacité de mon corps et mon esprit à travailler ensemble. Et qu'elle se répète cette phrase quand elle s'endort ou alors quand par exemple elle est en train de faire différentes choses, du ménage ou la vaisselle ou quoi, et que son esprit vagabonde un petit peu. Elle se répète cette phrase justement pour l'intégrer et se rassurer. Et elle dit que cette phrase lui a permis d'apprendre à faire confiance à son corps justement, de le transformer en refuge, en zone de sécurité où elle se sent chez elle en fait. Et je trouve que c'est assez inspirant et c'est du coup ce à quoi j'aspire, je me répète. Et c'est vraiment important et elle finit en parlant, j'imagine, d'une de ses élèves, je sais pas qui c'est, Stéphanie, qui dit « Mon corps sait ce qui est vrai, mon corps a sa propre histoire et j'ai confiance en lui pour qu'il me dise ce dont il a besoin ou ce dont j'ai besoin du coup. » Et voilà, je trouvais que c'était assez intéressant ces conseils, ces petits trucs pour justement apprendre à faire confiance à son corps. Quand je l'ai lu pour la première fois, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, bon, j'y suis pas encore, mais j'apprends parce que par exemple le fait de nommer, enfin de lui donner entre guillemets une identité, je le faisais déjà et ça m'avait aidé de la même façon que pour les angoisses, je leur avais donné aussi une identité pour me faire comprendre ou faire comprendre à mon esprit qu'elle ne me définissait pas et surtout qu'elle n'était pas moi en fait. Et de m'adresser à elle comme si je m'adressais à quelqu'un que je n'aimais pas, qui me voulait du mal, c'était une façon justement de me détacher un petit peu de cette croyance, de me dire que je suis une angoissée, point. Voilà pour ces petits conseils. Je vous remettrai, comme je disais tout à l'heure, le lien dans la description de l'épisode ou alors de la vidéo. Si vous voulez aller le relire en entier, c'est en anglais, mais n'hésitez pas. J'espère que je me suis exprimée de façon assez claire parce que c'est beaucoup de choses qui se passent en interne et j'ai toujours du mal un petit peu à pas les défendre, mais les exprimer à l'oral, tout simplement. Et c'est la première fois que j'aborde ce sujet avec autant de profondeur. Voilà, j'espère que ce sera pas un petit peu trop brouillon, je vais avoir un peu de boulot au montage. Mais bon, c'est le jeu. pour cette dernière partie, j'ai pas forcément de citation particulière parce que je veux justement vous inviter, si c'est quelque chose qui vous parle encore bien sûr, à trouver justement votre mantra. Mantra, ça fait un peu gourou, je trouve, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est une phrase qui vous fait du bien. Là où les phrases qui vous parlent, qui vous rassurent, qui vous donnent confiance. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur internet, il y a plein de sites, il y a plein de citations. Certaines sont un peu plus gnangnan, je trouve, que d'autres. Mais encore une fois, il s'agit de trouver ce qui nous convient. J'en ai lu une de Drake l'autre jour, le rappeur ou producteur, je sais pas exactement. Il est les deux, je crois. Et il dit, ne laissez jamais le succès vous monter à la tête et ne laissez jamais l'échec vous toucher le cœur. Et je trouve que c'est intéressant. J'ai bien aimé cette phrase, je l'ai notée et de temps en temps, je la relis. Écoute, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi que si jamais vous regardez sur YouTube, vous aurez apprécié la version filmée. Je vais essayer dès que j'ai la possibilité d'en refaire des filmés de temps en temps. De toute façon, je vous poste aussi tous les épisodes, même ceux qui ne sont pas filmés, sur YouTube, si jamais vous n'avez pas d'application podcast. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les réseaux sociaux, mes liens, etc. dans la description de l'épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté parler et je vous dis à très prochaine.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.